Europe 1.
En cette nuit d'Halloween sur Europe 1, Christophe Ondelat a sélectionné pour vous ses histoires de fantômes les plus glaçantes, inspirées du livre « Il y a quelqu'un dans la maison » de Patricia Darré aux éditions Michel Lafon. Pour une immersion totale, blottissez-vous sous la couette, éteignez les lumières et mettez votre casque audio ou vos écouteurs. Europe 1 vous propose, pour la première fois, une expérience sonore en binaural, un son en 3D pour vos oreilles. Ondelat, les histoires d'Halloween sur Europe 1, c'est maintenant.
Et voilà, vous êtes arrivés. Oula, elle est dans un sale état cette baraque. Vous êtes sûr que vous êtes à la bonne adresse? Bon, bah, joyeux Halloween. Hein.
Bonsoir et bienvenue. Entrez, entrez, je vous en prie. Cette somptueuse demeure est un peu vétuste, mais elle est chargée d'histoire. Chaque pièce ici est lourde de souvenirs, de colère, de douleur, de tristesse. Mais venez vous asseoir avec moi quelques instants. Non, n'ayez pas peur, ça n'est rien. J'héberge quelques amis à l'étage. Ils sont un peu bruyants. C'est toujours comme ça, vous savez, pendant la nuit d'Halloween. Halloween. Oui, la nuit où les âmes et les morts reviennent visiter les vivants. J'y pense. Vous connaissez peut-être mon amie Patricia Darré. Patricia entend des voix. Ça lui est tombé dessus, elle avait 38 ans. Elle voit des morts et elle leur parle. Une histoire parfaite pour notre soirée, non ?
Cette histoire débute au printemps 2016. Patricia vient de sortir un livre, elle est en séance de dédicace à Châteauroux, et un couple se présente à elle, 45-50 ans.
Voilà, nous sommes les gardiens dans un château dans le Poitou, et dans le château, il se passe des choses étranges, il y a des bruits.
Ah bon ? Où est-il, ce château ?
Vers Châtellerault. On ne peut pas tout vous raconter là, mais on aimerait bien que vous nous aidiez, s'il vous plaît.
Oui, oui, pourquoi pas ? Il faudra en reparler.
Elle leur laisse son numéro de téléphone, et puis elle oublie. La femme lui envoie 2 SMS pour la relancer. Elle signe Bérangère. Mais Patricia, qui est un peu débordée par la sortie de son livre, ne trouve pas le temps de répondre. Et puis fin 2016, un samedi matin, son téléphone se met à vibrer sur la table de nuit. Un SMS. « Ce château vous veut, ce château vous appelle, venez. » Le téléphone indique que c'est Bérangère qui a envoyé le message. Alors un peu pour se rattraper, Patricia répond.
Bonjour Bérangère, que vous arrive-t-il ? Pourquoi ce message ?
Et là Bérangère répond. Bonjour Patricia, mais quel message ? Je ne vous ai pas écrit. Bizarre. Dans son livre, Patricia écrit.
Ce n'est pas la première fois que je vois des instruments technologiques être utilisés d'une manière inexplicable par des forces qui le sont tout autant.
Le château n'est qu'à 1h30 de route de chez elle. Elle y va direct. Et quand elle arrive sur place, il est environ 5 heures, la nuit est en train de tomber. Et elle se retrouve devant un château renaissance en pierre de tuffeau blanche avec ses tourelles, ses flèches et un petit donjon moyenâgeux. Et à 50 mètres, au bout d'un chemin entre les arbres, la maison des gardiens. Bérangère et son mari Rémi.
Allez, si vous me faisiez visiter le château avant que la nuit tombe.
Et sur le chemin, Bérangère raconte qu'elle a toujours senti de l'adversité de la part du château.
Et maintenant, tous les matins, je dois ouvrir les volets du château. Eh bien, tous les matins, vous savez ce que j'entends? Des rires et aussi des pas dans l'escalier et dans le couloir, comme si on courait.
Et Rémi aussi a des choses à dire.
Ah ben moi, quand je travaille dans le jardin, j'entends des choses aussi.
Quelles choses?
Bah des cris d'hommes. On dirait quelqu'un qui est en colère. Ça vient du château.
Vous en avez parlé au propriétaire?
Ah, sûrement pas. On perdrait notre place à tous les coups.
Et les voilà qui ouvrent la lourde porte sculptée. À l'intérieur, l'atmosphère est lugubre. Et tout d'un coup, un cri qui vient des étages.
Je vous l'avais bien dit.
Le trio gravite alors l'escalier en pierre. Patricia dit qu'elle se sent agitée. Et là, nouveau cri qui les attire au troisième étage. Et derrière une porte, Patricia dit qu'elle entend des chuchotements. Elle ouvre, ils entrent, c'est une chambre. Et Patricia dit qu'elle a une vision. Elle voit des enfants âgés de 2 à 10 ans, blêmes, qui sont en train de jouer ensemble dans une sorte de geôle sinistre et sale. Elle dit qu'elle voit notamment une fillette qui coiffe un garçonnet. Et là, elle tombe en larmes et elle ressort et elle ferme la porte. Elle est bouleversée.
Ces enfants sont prisonniers. Je sens aussi des adultes, une dizaine d'hommes et de femmes, morts, qui sont retenus dans ce lieu.
Mais par qui?
Je ne sais pas.
À ce moment-là, une porte claque au deuxième étage. Alors ils descendent, ils vont voir. Derrière la porte, ils entendent comme des raclements. Ils entrent, c'est encore une chambre. Et ils entendent un remue-ménage dans la salle de bain. Patricia s'approche de la porte. Elle tourne la poignée. Elle ouvre et devant elle, elle dit qu'elle voit une silhouette. Un chevalier avec une cotte de mailles déchirée et des vêtements en lambeaux et une balafre sur le visage. Et le chevalier qui lui crie
« À genoux !»
Elle est sidérée.
« À genoux, dis-je ! Comment ? »
Notez que Bérangère et Rémi ne voient rien de tout ça. Ils n'entendent rien non plus. Ils ne voient que Patricia à genoux devant le lavabo.
« C'est donc lui, le seigneur des lieux, la terreur du château.
Et ils en restent là, et ils quittent le château. Et en revenant vers la maison des gardiens, elle leur raconte ce qu'elle a vu. Et autour d'une tasse de thé à la bergamote, elle leur explique sa méthode.
Il faut essayer de comprendre ce que veut le chevalier, de savoir pourquoi il est en colère. Vous connaissez bien l'histoire de ce château ?
Rémi farfouille dans le tiroir de la commode et il lui tend des feuilles de papier. Et Patricia découvre que parmi les noms qui ont marqué l'histoire de ce château, il y a une célébrité, le connétable du Guesclin, un guerrier d'exception qui se battait au service du roi de France contre les Anglais du temps de la guerre de Cent Ans, au XIVe siècle. Mais ce n'est pas lui qu'elle a vu. Alors elle continue de parcourir le petit historique. Et elle s'arrête sur un nom, Jean de Kerlouette. Et là, son cœur se met à battre la chamade.
C'est lui! J'en suis sûre, c'est lui que j'ai vu. Ce Jean de Kerlouette, il a eu un gros problème. Il le crie, il essaye de se faire entendre. C'est pour ça qu'il garde les otages.
Mais pourquoi?
Il veut quoi?
Ça, à nous de le découvrir.
La notice historique du château raconte que pour combattre les Anglais à Niort, en 1376, le chef de guerre du Guesclin avait utilisé une ruse. Lui et ses hommes s'étaient déguisés en Anglais. Et ce Jean de Kerlouette, qui était un compagnon d'armes de Du Guesclin, est mort au cours de cette bataille.
Bon, allez, je rentre chez moi. Faut que je laisse tout ça décanter. Je reviendrai, promis.
Et Patricia reprend la route de château. Et au bout de 3 ou 4 nuits, elle se met à rêver de bataille. Elle voit Du Guesclin à la guerre. Et un soir, vers 10h30, elle a une vision. Elle voit deux Kerlouettes déguisé en anglais, se battre comme un diable contre ces bougres d'anglais. Et elle le voit qui reçoit un grand coup d'épée sur le crâne et qui meurt sur le coup. Et qui l'a tué? C'est pas un anglais, c'est un français. D'après ce qu'elle voit, Jean de Kerlouette, déguisé en anglais, a été tué par l'un des siens. Et pour elle, c'est limpide.
Jean de Kerlouette s'estime trahi. Voilà pourquoi il hurle depuis près de 600 ans.
Alors le samedi suivant, Patricia revient au château. et elle raconte ses rêves à Bérangère et Rémy. Et elle les entraîne dans la chambre où elle installe un guéridon. Et ils s'assoient tous les trois autour du guéridon.
Il arrive.
Et Patricia dit qu'elle voit Jean de Kerlouette. Et elle lui dit...
Soyez en paix, la guerre est finie. Pourquoi êtes-vous en colère?
On m'a trompé.
Vous voulez dire que c'est l'un de vos hommes qui vous a blessé?
Oui.
Il va falloir partir maintenant. De l'autre côté, vous aurez des réponses. Il ne vous sert à rien de rester ici.
Je suis ici, chez moi.
Ce n'est qu'une demeure de pierre. Celle qui vous attend est tellement plus vaste et plus belle. Acceptez de suivre ceux qui vous attendent. De quoi avez-vous besoin?
Je ne sais pas. De vos prières.
Nous allons prier pour vous. Mais il faut aller vers la paix.
Patricia dit qu'ensuite, elle voit l'image de Jean de Kerlouette se dissoudre peu à peu et s'évaporer.
C'est fini. Il est parti. Le château est libéré. Vous allez retrouver la sérénité maintenant.
Depuis, le calme serait revenu au château.
Troublant, non ?
Désolé, c'est Richard Ramirez, vous savez, le tueur sataniste. Il a demandé à aller jouer à la cave avant le dîner. Ah non, 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 croyez-moi, hein, ça n'est pas une bonne idée que d'aller le voir. Il faut avoir le cœur bien accroché. Gardons ça pour une autre fois, voulez-vous? Vous voulez un verre de vin? Quelque chose à grignoter? J'ai prévu en grande quantité ce soir, avec le banquet qui s'annonce. La cuisine est là, venez. Où en étais-je? Ah oui, Patricia Darrell. Elle possède le don de parler avec les morts, et notamment avec les fantômes. Voici une autre histoire, d'ailleurs, qui se déroule dans une maison de la Creuse.
En novembre 2014, Patricia reçoit un mail. Une mère de famille de la Creuse, Gaëlle, avec son mari Jean-Paul et ses deux enfants, Anna et Noah, ils viennent d'emménager dans une maison en pleine campagne entre Guéret et Aubusson. Ils arrivent de la région parisienne, elle a fait un burn-out, Jean-Paul a obtenu une mutation dans la Creuse, ils se sont mis au vert. Et depuis un mois, il se passe dans leur maison des choses bizarres. Les enfants sont perturbés. Noah, qui a 4 ans, a du mal à trouver le sommeil. Et Anna, qui en a 6, fait des cauchemars. Et elle raconte qu'un méchant monsieur passe dans sa chambre et qu'il revient de plus en plus souvent. La mère explique qu'ils ont pensé que leur fille était perturbée par le changement de maison et d'école, que ça passerait. Mais il n'y a pas que ça. Un matin, ils se sont levés, la lumière du couloir était allumée, et aussi celle de la salle à manger et celle du salon, et la télé était en marche, et ça a recommencé plusieurs fois. Voilà Madame Darré. Est-ce que vous pourriez nous aider? La Creuse, c'est tout près de chez Patricia. Alors elle dit à Gaëlle qu'elle viendra samedi prochain.
Dites-moi si ça vous ennuie. Il faudra peut-être que je dorme chez vous samedi soir, pour mieux me rendre compte.
Ah ben ça ne nous ennuie pas du tout. Au contraire, on vous attend.
Et donc, le samedi suivant, Patricia, dans sa Honda Civic, prend la direction de la Creuse. Une heure de route, et la voilà chez Gaëlle et Jean-Marc. Une petite quarantaine. Gaëlle accueille Patricia avec enthousiasme. En revanche, Jean-Marc, elle voit tout de suite qu'il est sur la réserve. Je sens sa résistance et je sais que je n'aurai pas sa collaboration. Son scepticisme et sa peur le bloquent. Les enfants disent bonjour, timidement. Alors la maison. C'est une vieille maison en pierre apparente, typique de la région. À l'intérieur, c'est rustique et soigné, genre magazine de déco, avec les coussins et les rideaux assortis.
Je vous fais visiter?
Avec plaisir.
À l'étage, il y a les chambres des enfants et la salle de jeu. Et en bas, la cuisine, le salon et la chambre des parents. Et d'entrée, Patricia dit qu'elle sent une atmosphère à couper au couteau. Alors de retour dans le salon, elle demande à la petite Anna.
Alors ta maman m'a dit que tu avais peur la nuit.
La nuit, il y a un bonhomme qui vient.
Quand tu rêves ?
Non, quand je dors pas, il est là.
Il est comment ce bonhomme ? À quoi il ressemble ?
Il est grand et il fait froid.
Il fait froid ?
Quand il est là, il fait froid.
Et là, Noah, le petit garçon, ajoute.
Il est méchant.
Méchant ? Pourquoi il est méchant ?
Il veut me faire du mal.
Tu l'as vu aussi ?
Bah oui, plein de fois.
Anna raconte aussi qu'avant, elle faisait des cauchemars. Un homme entrait chez eux et il mettait le feu. Et il ne pouvait pas s'enfuir. Et il restait prisonnier des flammes. Alors depuis, les enfants dorment en bas, dans la même chambre que leurs parents. Alors le soir, Patricia décide de dormir dans la chambre d'Anna. Et puis dans la nuit, son intuition la pousse à changer d'endroit. Elle va se rouler dans une couverture dans la salle de jeu. Et elle s'endort. Et en pleine nuit, elle raconte qu'elle est réveillée par une sensation de froid.
Je ne peux plus bouger. Mes bras et mes jambes sont engourdis. J'arrive à peine à tenir mes paupières ouvertes. J'ai l'impression que des bouffées de vapeur sortent de ma bouche quand je respire.
Et elle aperçoit une silhouette immense, 3 mètres de haut. Et elle dit qu'elle voit la silhouette glisser vers elle. Comme pour l'effrayer, elle appelle ça une âme noire. Et elle s'estompe et elle disparaît. Le lendemain matin, elle ne dit rien. Elle demande juste si elle peut revenir le soir. Bien sûr, dit Gaëlle. Et le soir venu, elle s'installe dans la chambre d'Anna et elle s'endort comme un bébé. Et elle se met à rêver. Et elle se voit dans la pièce principale de la maison, mais autrefois. Le sol est recouvert de paille, il y a un coffre, une table en bois et 2 bancs. Sur l'un des bancs, il y a un homme qui est en train de tailler un bout de bois. Et debout près de la cheminée, il y a une femme et les enfants qui jouent entre les portes. Patricia aime bien l'histoire. Et à son avis, ça se passe au 18e siècle. Et dans son rêve, à un moment, une silhouette apparaît dans l'encadrement de la porte. Un journalier, un misérable, qui se met à hurler sur l'homme assis sur le banc. Lequel se lève, l'empoigne et le chasse. Et le manant part en vociférant. Et puis maintenant, c'est toujours son rêve. Hein. Elle est à l'extérieur de la maison. Et la maison est en feu. Et toute la famille est prisonnière à l'intérieur. Et le misérable est dans la cour, c'est lui qui a mis le feu. Et elle se réveille en sursaut avec l'impression d'étouffer. Au petit déjeuner, elle raconte tout ça à Gaëlle, mais à voix basse. Elle a compris que Jean-Marc ne la croirait pas. Vous allez rester avec nous, hein ?
Pas forcément. Mais rassurez-vous, maintenant que je suis connectée à cette histoire, c'est comme si je la transportais avec moi. J'ai pas besoin d'être ici pour y travailler. N'ayez crainte.
Mais Patricia revient quand même le week-end suivant. Et pour la 3e fois, elle s'installe dans la chambre d'Anna. Et elle est en train de somnoler quand elle entend un craquement. Et puis elle sent le froid qui tombe et de la vapeur qui sort de sa bouche. Et devant elle, elle dit qu'elle voit le manant, le misérable qui, dans son rêve, a mis le feu à la maison. Elle peut le décrire.
Roux, avec un nez Camus. Des petits yeux, un visage buriné et marqué par la pauvreté.
Pourquoi vous voulez me chasser ?
Je n'ai aucune mauvaise pensée contre vous. Mais je ne veux pas vous chasser. Comment vous appelez-vous ?
Jaco, c'est pas moi qui ai pris le soc.
Quel soc ?
Le soc de la charrue à Jeannot. Il m'a accusé de l'avoir volé. J'y ai dit que c'était pour moi. C'est Vicaire qui l'a pris. Mais Jeannot, il n'a rien voulu entendre et m'a renvoyé quand même. Alors c'était pour moi. Alors le soir, je suis revenu. J'ai tout fait brûler. Ça ferme. Et lui dedans.
Est-ce que ça vous a apaisé ?
Non, la paix, elle n'est pas de ce monde pour moi. Le bon Dieu et la bonne dame m'ont abandonné.
Je sais, moi, que ce n'est pas vous qui avez pris le soc. Je vous crois.
Je ne veux plus être chassé.
Vous ne le serez plus.
2 semaines plus tard, Patricia est chez elle. Il est 3h30 du matin. Au sujet de cet horaire, elle écrit :
c'est souvent l'heure choisie par les entités pour se manifester. Il semblerait qu'à cette heure-là, un pont se forme entre nous et les autres dimensions.
Bref, elle se réveille en sursaut. Et elle dit que Jaco, le manant rouquin, est planté devant elle, bien habillé et coiffé d'un chapeau noir.
Je m'en vais.
Allez-y, c'est bien.
Ils sont venus me chercher. J'allons expier.
Aux dernières nouvelles, Jaco n'a jamais remis les pieds dans la maison de la Creuse. Enfin, c'est ce que disent les enfants.
J'aime beaucoup ces histoires de fantômes. Je les trouve rafraîchissantes. Alors ce vin, pas mal, non? Un vin du Poitou, d'ailleurs. Il n'y a pas beaucoup de lumière, veuillez m'excuser. Je suis à l'aise que dans la pénombre. Mais pour vous, je vais allumer quelques bougies. Oh, mais j'y pense. Ça vous dirait une petite séance de spiritisme en amuse-gueule? J'ai trouvé récemment un Ouija. Vous savez, cette petite planche en bois qu'on utilise pour communiquer avec les esprits, il vient de la Nouvelle-Orléans. Il est splendide. J'ai hâte de l'essayer avec vous. Venez. Venez, il est dans le grand salon juste à côté de la cheminée. Vous pourrez vous réchauffer un peu. Patricia n'utilise jamais de Ouija. Je devrais peut-être lui en offrir un.
Europe 1. Ondelat. Les histoires d'Halloween.
La nuit promet d'être belle, car voici qu'au fond du ciel apparaît la lune rousse. Saisie d'une sainte frousse, tout le commun des mortels croit voir le diable à ses trousses. Valet, volage et vulgaire, ouvrez mon sarcophage, et vous, page pervers, courez au cimetière, prévenez de ma part, mes amis nécrophages. Voici mon message. Cauchemars, fantômes et squelettes, les siffleter aux idées noires, près de la mare aux oubliettes, venus du sphère obligatoire. Lutin, lucien, feu follet, elfe, faune et farfadet, c'est Fred, mes grands carnassiers. Une muse un peu de dû me dit d'un air entendu, vous auriez pu vous raser. Comme je lui fais remarquer, deux, trois pendus attablés qui sont venus sans cravate. Ah, vous avez remarqué. Elle me lance un œil hagard et vomit sans cri d'égard quelques vipères écarlates. Vampire ébloui par de l'ubrique vestale, et géris insatiables chevauchant des vaquiries, infernales appétits de frénésie bacchanale qui charme nos âmes envahies par la mélancolie. Envoie satire joufflue, bouc émissaire, gargouilleuse émue, fière gorgone. Laissez ma couronne aux sorcières et mes chimères à la licorne. Soudain les arbres frissonnent, car Lucifer en personne fait une courte apparition. Qu'on lui donnerait volontiers le bon Dieu sans confession. S'il me laissait malicieux courir le bout de sa queue devant ses yeux maléfiques, et ne se dressait un bon dans un concert de jurons, disant le tout pathétique que l'État
rêver d'un suprême. Mais déjà le ciel blanchit. Esprit, je vous remercie de m'avoir si bien reçu. Cochez lugubre et bossu, déposez-moi au manoir et lâchez ce crucifix. Décrochez-moi ces gousses d'ail qui déshonorent mon portail et me cherchez sans retard. L'ami qui soigne et guérit, la folie qui m'accompagne et jamais ne m'a trahi.
Ondelatte, les histoires d'Halloween.
Patricia Daré n'a pas de caravane sur la place de son village du Berry. Elle n'a pas non plus de cabinet dans lequel elle reçoit, où elle donne des consultations. Patricia ne fait pas commerce du don qu'elle prétend avoir reçu. Ça n'est pas Madame Irma. Quand on l'appelle au secours, elle répond. C'est tout. Quelqu'un qui s'est débrouillé pour avoir son numéro, ou alors c'est une lettre. Et ce jour-là de mars 2015, c'est un mail qu'elle reçoit. Un mail d'un certain Nicolas, qui habite à Bourges, avec sa femme et ses trois enfants. Il se passe des choses bizarres chez lui. Il ne lui en dit pas plus, il voudrait juste qu'elle le rappelle.
Nicolas, c'est Patricia Daré. Vous m'avez envoyé un mail.
Ah oui, bonjour Patricia. Merci de me rappeler.
Bon alors, dites-moi, qu'est-ce qui se passe ?
Écoutez, c'est une histoire complètement délirante, ça fait un mois qu'il nous arrive des trucs absolument dingues. En fait, je préférerais vous en parler de vive voix. Vous accepteriez de passer nous voir ?
Bourges, ça n'est pas loin de chez elle. Je vous rappelle que Patricia est berrichonne. Alors elle y va. Et elle se retrouve face à une grande maison. C'est une jolie femme, environ 40 ans, qui lui ouvre. Anne-Sophie est la femme de Nicolas. Elle entre. Et tout de suite, elle sent comme un pincement. Un pincement au niveau de la poitrine.
Une énergie lourde et suffocante me mettait mal à l'aise. J'allais devoir me concentrer pour écouter et comprendre ce qui se passait. Il était certain que nous n'étions pas seuls.
Je vous en prie, asseyez-vous. Bon, voilà comment ça a commencé. C'était il y a un peu plus d'un mois. Lucas, notre plus jeune fils, il a 6 ans. Un matin, il s'est levé. Il avait des traces de griffures dans le dos. Ça partait du cou et ça allait jusqu'en bas des reins. Mais pas le genre de griffures qu'on peut se faire tout seul. On avait l'impression que son dos avait été labouré, comme par les griffes d'un chat. Au début, on a cru que c'était ses frères qui avaient fait ça. Mais ils nous ont promis que c'était pas eux. Et puis, avec le recul, je les vois très mal faire ça à leur petit frère. On appelle le petit Lucas. On lui soulève le t-shirt. Les cicatrices sont encore visibles, boursouflées.
Il est le seul à avoir eu ces griffures ?
Des griffures, oui. Mais Mathias, notre petit second, il s'est retrouvé avec des bleus partout. Et le petit dernier, Enzo, lui, il s'est pris une gifle.
Une gifle ?
Oui, une baffe qui venait de nulle part. Et là, j'avoue que ça m'a fait sérieusement gamberger.
Entre nous, ça n'est pas très facile à raconter pour Nicolas et Anne-Sophie. La peur de passer pour des fous, des zinzins, des prêtes-zingues, des qui travaillent du ciboulot. Mais bon, maintenant ils sont lancés, Patricia les écoute, elle a l'air de ne pas les juger, alors ils racontent la suite. Parce qu'il y a une suite. Nicolas d'abord, le père. Mais moi aussi, il m'est arrivé quelque chose de complètement fou. Il y a 2 semaines, j'étais en train de regonfler mon vélo dans le garage. Et là, j'ai senti des mains se poser sur mes épaules. Elles m'ont fait valdinguer en avant, avec une force incroyable. Il n'y avait personne. Et dans la foulée, c'est Anne-Sophie qui raconte son histoire.
Moi, c'était il y a 1 semaine environ. Je rangeais le placard de la chambre et on m'a violemment tiré les cheveux. Sauf qu'encore une fois, il n'y avait personne. Je me suis demandé si je ne perdais pas les pédales.
Patricia demande alors à visiter la maison.
Alors là, c'est notre chambre. Et là, c'est la chambre des enfants.
Patricia fait le tour de toutes les pièces, une par une. Elle ressent un malaise, quelque chose d'impalpable, de malsain. Voilà, de malsain. En revanche, elle n'a aucune vision. Aucune voix ne lui parle. Rien de rien.
Et comme sa spécialité, ce sont les fantômes, elle est désolée.
Vous savez, moi, ce que je sais faire, c'est parler avec les voix qui habitent des maisons. Et là, je sens bien quelque chose d'étrange, de malsain, mais aucune voix. Je ne sais pas comment je peux faire pour vous aider.
Elle est sur le point de s'en aller, de rentrer chez elle.
Pourriez-vous juste m'indiquer où sont les toilettes ?
Elle entre dans les pipi-rooms, elle ferme la porte.
Ah !
Et là, elle reçoit un énorme coup dans le dos. Elle a le souffle coupé. Elle sent comme une force invisible qui la traverse de part en part. Alors elle ressort. Elle ne dit pas un mot sur ce qui vient de lui arriver pour ne pas inquiéter Nicolas et Anne-Sophie. Et elle leur dit juste...
Bien, je crois qu'il est temps pour moi de réfléchir à votre problème. Je vous rappelle très vite. Surtout, tenez-moi au courant s'il se produisait des phénomènes bizarres.
Patricia est là dans sa voiture. Elle gamberge et elle se dit... Ces événements sont survenus les uns derrière les autres, en très peu de temps. Quelque chose s'est immiscé dans cette famille, ou plutôt quelqu'un. Il y a un fantôme. Il ne lui a pas parlé, mais il y a un fantôme dans cette maison. Pourquoi se manifeste-t-il maintenant ? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille ? Qu'est-ce qui a changé récemment ? Quelques jours plus tard, elle reçoit un appel d'Anne-Sophie.
Hier soir, vers 19h, Nicolas était en train de regarder la télé avec les garçons. Le canapé sur lequel ils étaient assis s'est soulevé. Je suis arrivée dans le salon au moment où il retombait par terre. J'ai eu la peur de ma vie.
Allons bon. Voilà maintenant que le canapé se met en lévitation. Ça, Patricia, ça lui parle. Elle en a entendu mille des histoires de lévitation. Au point d'ailleurs qu'elle s'est fait sa théorie, elle pense que la lévitation résulte d'une émission importante de matière psychique. Elle pense qu'un fantôme peut faire tout ça, peut soulever un canapé. Et donc, le samedi suivant, elle y retourne. Elle retourne chez Nicolas et Anne-Sophie dans leur belle maison bourgeoise de Bourges. Et elle les sent beaucoup plus anxieux que la fois précédente.
J'ai l'impression qu'il y a un intrus dans la maison. On n'est pas seul. Je fais tout pour ne pas inquiéter les enfants, mais ça devient de plus en plus compliqué, Patricia. Aidez-nous. Il faut nous aider.
Elle refait donc le tour du propriétaire. Et à nouveau, elle a cette sensation de malaise qu'elle avait ressentie la première fois. L'atmosphère est pesante, mais elle n'a toujours pas de vision. En revanche, il y a un truc qui l'a fait tiquer, un truc auquel elle n'avait pas accordé d'importance la première fois. Les meubles sont tous anciens.
Intéressant, votre mobilier. C'est un héritage ?
Ah non. Je chine beaucoup, j'adore aller chez les brocanteurs... Chez les antiquaires.
Ah, et vous avez acheté des choses ces deux derniers mois ?
Oui. Un pichet en terre cuite.
C'est tout ?
Ah, attendez, j'ai acheté un vieux tabernacle du 18e siècle il y a environ un mois et demi. Il est au grenier. Vous voulez le voir ?
Un tabernacle ? Et un peu qu'elle veut le voir. Un tabernacle, c'est un petit coffre qu'on trouve dans les églises, juste derrière l'autel. C'est là-dedans que le curé enferme le pain et le vin sacrés, les ciboires, les hosties. Vous voyez ? Les voilà donc qui montent au grenier. Et il est là, posé. Patricia s'accroupit, elle le caresse et elle ressent un froid glacial. D'un coup, elle est frigorifiée. Elle a la chair de poule.
Vous pouvez me laisser seule quelques instants.
Une fois Nicolas et Anne-Sophie sortis, elle ouvre la petite porte délicatement. Et d'un coup, elle voit un éclair blanc et elle entend une voix d'homme essoufflé qui se met à sangloter.
Pitié ! Pitié !
Elle retire sa main, elle recule et elle est prise d'une angoisse terrible, la peur de mourir. C'est lui, c'est ce tabernacle, innocemment rapporté d'une brocante, qui est à l'origine de tout ce qui se passe ici. Elle en est certaine. Les griffures, les coups, le canapé qui se soulève, c'est lui.
Je crois avoir trouvé la source de vos soucis.
Vous voulez dire le tabernacle ? Mais comment est-ce possible ?
Ça, je peux pas encore vous le dire.
On va s'en débarrasser tout de suite.
Est-ce que ça vous embête si je l'embarque avec moi ?
Et voilà donc Patricia qui place le tabernacle dans le coffre de sa voiture.
Je vous tiens au courant.
Et qui l'emporte chez elle.
à Villedieu-sur-Indre, près de Châteauroux, le tabernacle et son fantôme. Bon, elle ne le met pas dans sa chambre à coucher, hein. Elle le met dans la cabane du jardin et elle le laisse reposer là pendant 2 jours. Au bout de 2 jours, elle retourne le voir. Elle s'accroupit devant l'objet et elle passe sa main dessus délicatement. Elle se concentre et là, elle dit qu'elle a une vision. Elle voit des émeutes, elle voit une église, elle voit des types armés qui saccagent tout l'intérieur de l'église et qui hurlent. Et puis elle voit un homme qui prend le tabernacle et là, ses visions s'arrêtent d'un coup. Net. Les jours qui suivent, elle y retourne. Et à chaque fois, elle passe sa main dessus et elle a les mêmes visions. Des hommes armés, une église, des hurlements. Et à nouveau, ses visions s'arrêtent net au moment où un homme s'empare du tabernacle. Une nuit, elle est réveillée par une voix d'homme qui sanglote.
« Pitié ! C'est Dieu ! Prenez pitié !»
Et à nouveau, elle est prise d'une terrible angoisse. Elle a la peur de mourir. Elle enfile un pull, elle se précipite dans le jardin, elle s'assoit devant le tabernacle, elle ouvre la petite porte et elle dit qu'elle a une nouvelle vision. L'intérieur d'une église. Un prêtre agenouillé devant l'autel. Il a des cheveux blonds qui lui tombent sur les épaules. Il est de dos, il est en train de prier. Alors dans son jardin, devant ce tabernacle, Patricia se met à réciter le Notre Père.
Aujourd'hui notre Père. Pardonne-nous, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.
Et là, elle dit qu'elle voit le prêtre qui se retourne et qui la fixe. Il est très jeune. Les jours qui suivent, ses visions se font de plus en plus précises. Elle voit toujours des hommes armés, elle voit des faux, des maillets, des fusils qui saccagent tout et qui hurlent en se dirigeant vers la sacristie. Et elle voit le jeune prêtre qui prend un coup de bâton sur le crâne et qui s'écroule. Elle commence à décoder la scène. Tout ça commence à faire sens. Voilà ce qu'elle voit. C'est une scène de la Révolution française. Ce sont des révolutionnaires qui exécutent un prêtre.
Je vis son esprit passer dans le tabernacle. L'homme de Dieu, peu conscient de sa mort et trop enfermé dans sa peur et sa résistance aux révolutionnaires, s'était réfugié dans l'objet qui allait devenir son église. J'ai compris que chez Anne-Sophie et Nicolas, le prêtre n'avait senti aucune vibration familière et s'était senti en danger et qu'il avait décidé de frapper en premier.
Et maintenant, la mission de Patricia, c'est donc de libérer ce prêtre de son tabernacle, de l'aider à rejoindre l'au-delà. Alors le soir même, elle retourne auprès du tabernacle. Elle emporte un livre de prière, elle ouvre la porte et elle récite une prière.
Je sentis un tumulte dans l'invisible, comme si les dernières résistances étaient en train de lâcher. Pourtant, la ferveur religieuse du prêtre s'opposait encore à ce qu'il pensait peut-être être un piège.
Patricia continue de réciter ses prières. Et peu à peu, elle dit qu'elle ressent comme un grand soulagement. Elle le sait, l'âme du prêtre s'éloigne vers l'au-delà. Elle a gagné. Elle a rempli sa mission.
Un prêtre qui hante les vivants. C'est le monde à l'envers, non ? Ah, moi, je ne peux plus mettre les pieds dans une église, ni m'exposer à la lumière du soleil. Et alors, les gousses d'ail, ça me fait vomir. Vous voyez ce que je veux dire ? Non ? Mais non, alors, détendez-vous ! C'est juste une petite blague. De mauvais goût, d'accord. Mais c'est Halloween, non ? Vous voyez bien que j'apparais dans le miroir, non ? Bon, de toute façon, je crois que les préparatifs sont terminés. Nous n'allons pas tarder à passer à table. Mais on a encore le temps pour une dernière histoire, non ?
Europe 1. Ondelatte. Les histoires d'Halloween.
Et là, c'est une amie de Patricia, Annie,
qui fait le contact avec le fantôme.
Patricia, je te jure, tu devrais aller voir Adèle. Elle vit à Montluçon, c'est une dame très âgée, mais il se passe des trucs bizarres chez elle, vraiment bizarres, mais va la voir.
T'es gentille. Tu me dis qu'elle est très âgée. T'es sûre que c'est pas un délire sénile?
Mais non, je t'assure, elle est loin d'être folle. Allez, fais un petit effort. Laisse-moi te la présenter, tu verras, tu me remercieras.
Et donc, par amitié pour sa copine Annie, Patricia accepte de faire ce petit effort. Et elle va chez cette vieille bonne femme à Montluçon. Elles y vont ensemble, en vérité. Et elles arrivent devant une immense maison, genre manoir victorien sur 3 étages. Vous voudriez faire un film sur une maison hantée, vous la choisiriez tout de suite. Et les voilà qui frappent à la porte. Une porte en bois massif qui s'ouvre lentement. Et là, apparaît Adèle, l'air de sortir tout droit d'un roman d'Agatha Christie, mais souriante, lumineuse même.
Bonjour.
Ah bonjour, je vous attendais. Je suis Adèle, enchantée. Merci de passer me voir. Entrez, je vous en prie.
Et elle s'installe dans le salon. La déco est vieillotte, mais d'emblée, Patricia s'y sent bien.
Votre maison est charmante, Adèle.
Oh merci, merci. Ça fait plus de 60 ans que je vis ici. Cette maison appartient à la famille de mon défunt mari. Elle a été transmise de génération en génération depuis sa construction en 1852. Je serais incapable de la quitter.
Vous vivez seul ici?
Ah oui, oui. Depuis la mort de mon mari. D'ailleurs, c'est à partir de là que tout a commencé.
Et là, Adèle se met à raconter une histoire qui commence il y a 20 ans, 6 mois après le décès de son mari. Un soir, elle est dans le salon, en train de regarder la télé. Elle entend des bruits de pas dans le couloir. Au début, elle pense que c'est sa femme de ménage qui est revenue, comme elle a les clés.
Madame Robin? Madame Robin, c'est vous?
Pas de réponse. Alors elle se lève, elle va voir. Rien. Les bruits de pas ont cessé, il n'y a personne. Mais un quart d'heure plus tard, voilà qu'ils reprennent à l'étage.
Je vous jure, hein, quelqu'un marchait dans la chambre du premier étage. Je peux vous dire que ça m'affiche une de ces frousses, mais vous savez quoi? Eh bien, j'ai pris mon courage à deux mains. Je suis monté à l'étage pour voir, pour me défendre. J'ai avec ma canne.
Elle raconte qu'elle arrive à l'étage et que tout doucement, elle baisse la poignée de la porte, elle l'ouvre sans faire de bruit. Rien. Rien, personne. En revanche, quelques jours plus tard,
j'étais en train de lire dans le salon. Et là, j'ai vu passer une silhouette dans le couloir. Une petite personne vêtue de bleu. Alors je me suis précipité dans sa direction. Mais là encore, personne. Mais j'étais pas folle. J'avais vraiment vu quelqu'un passer.
Adèle raconte que dans les jours qui suivent, elle est témoin de choses bizarres. Des portes qui claquent alors qu'il n'y a pas de courant d'air. Des bruits de pas.
Je me disais que j'étais devenue folle. Mais plusieurs fois, la femme de ménage a été témoin de tout ça. Et je peux vous dire qu'après, elle est venue travailler avec la peur au ventre. Ah oui?
Ces phénomènes ont duré comme ça pendant 1 an. Et 1 an après, en pleine nuit, Adèle a été réveillée par un froid glacial.
On était en plein mois de février. Alors je me suis demandé si c'était pas la chaudière qui avait rendu l'âme. Je me suis redressé sur mon lit. Et là, au bout de mon lit, hein, j'ai vu, comme je vous vois, une femme. Une femme dans une robe bleue. Elle avait un visage fin, gracieux. Un beau chignon, bien fait. Et elle me regardait. Et je voyais son visage dans la pénombre. Sa peau diaphane, ses grands yeux.
Ce que pense Patricia à ce moment-là du récit, pour être honnête, elle a un doute. Un doute sur la santé mentale de la vieille dame qui est assise en face d'elle. Elle donne trop de détails. Sa description du fantôme est trop précise. Dans son livre, elle écrit
« J'écoutais, sceptique, car la somme de détails qu'Adèle se plaisait à me décrire me faisait penser aux imaginaires des petites filles qui vous dépeignent avec 1000 fioritures les faits des histoires qu'elles s'inventent. Nombreux sont ceux qui imaginent des fantômes pour donner un sens à leur existence. »
Mais elle laisse Adèle poursuivre son histoire. Cette femme avec sa robe bleue revient plusieurs fois dans sa chambre.
Une fois, elle portait même un collier en or, avec des pierres bleues.
Encore ce luxe de détails, ce côté too much. La vieille Adèle a l'air de brinque-baller du ciboulot.
Mais il faut que je vous raconte ce qui s'est passé quelques années plus tard. Un jour, j'étais dans la cuisine, je faisais l'argenterie. J'ai eu comme un étourdissement, mais pas vraiment un malaise, l'impression d'être traversé par une force. Alors, je suis allé m'asseoir dans le fauteuil. Et à ce moment-là, mon bras s'est mis à se raidir. Et je peux pas vous expliquer pourquoi, mais il fallait que j'écrive à tout prix. J'étais comme guidé par une force invisible.
Et donc elle raconte qu'elle s'est mise à écrire. Au début, des formes anarchiques, du gribouillage d'un enfant de 2 ans. Et puis au bout d'un moment, une suite de lettres. Un I, un S, un M, un E, un R, un I et un E à nouveau. Ismeri.
Ismeri, c'est un vieux prénom qui ne se porte plus guère. Eh bien, figurez-vous qu'à partir de ce jour-là, je me suis mis à communiquer régulièrement avec cette femme. Vous me croyez, Patricia ?
Vous savez pourquoi cette femme serait apparue, juste après la mort de votre mari ?
Oui, vous allez comprendre. Parce que cette Ismeri a réellement existé. C'était la sœur du grand-père de mon beau-père. La famille de mon mari, donc. D'après ce que je sais, elle souffrait d'anorexie mentale. Elle ne mangeait pas. Elle était très maigre et elle a fini par mourir très jeune, à l'âge de 22 ans, en 1858. Vous savez, ses parents n'assumaient pas du tout sa maladie. Ils avaient honte. Et puis, ils n'avaient pas pu la marier à un bon parti. Alors, ils l'ont cachée. Ils l'ont cachée tout ce temps. Elle est restée enfermée ici jusqu'à sa mort. Et vous voulez savoir la cause de son trouble psychique ? Eh bien, moi, je le sais. C'est l'inceste, Patricia. Son propre père l'a violée. C'est lui qui l'a rendue folle. Alors vous me demandez pourquoi elle aurait attendu la mort de mon mari pour réapparaître. Elle détestait les hommes. Elle a tout simplement attendu qu'il n'y ait plus d'hommes dans cette maison pour se montrer à nouveau.
Adèle a raconté son histoire avec beaucoup de décontraction, sans donner l'impression d'être plus perturbée que ça. Et du coup, notre amie Patricia, qui pourtant croit dur comme fer à l'existence des fantômes, est toujours un peu sceptique. Est-ce que cette vieille folle n'invente pas tout ça ? Mais elle prend le parti de la croire.
Adèle, cette Ismeri, il faut l'aider à partir, à rejoindre l'au-delà, à trouver la paix.
Ah, mais moi, je ne sais pas faire tout ça.
Eh bien, moi, si.
Et Patricia promet qu'elle reviendra dans 3 semaines. Et 3 semaines plus tard, la voilà donc de retour au manoir. Elle s'installe dans la chambre d'Adèle. Une chambre de vieille dame avec des fleurs partout, sur les murs, sur les draps. Une pièce joyeuse. En vérité, pas du tout le genre d'endroit où on imagine croiser des fantômes. Et elle s'endort, et la première nuit passe. Et le lendemain, au petit déjeuner, Adèle lui demande.
« Vous n'avez rien senti ?»«
Rien. »
« Vous doutez de moi, n'est-ce pas ?»«
Je vous respecte, Adèle. Je ne doute pas de vous. C'est juste que cette histoire est incroyable. J'aimerais ressentir la présence d'Ismeri, qu'elle me fasse un signe. »
La deuxième nuit, vers 1h30 du matin, Patricia se réveille avec une sensation étrange, l'impression de ne pas être seule. Elle lève la tête et là, au pied du lit, pendant une seconde, hein, pas plus, elle voit une silhouette féminine, une robe qui disparaît tout de suite, mais elle l'a vue. Et voilà ce qu'elle croit comprendre à ce moment-là. Elle se dit qu'au fil des années, Adèle et Ismeri, Adèle et le fantôme sont devenus comme fusionnelles. Elles ont besoin l'une de l'autre. Elles ne peuvent plus se passer l'une de l'autre. C'est devenu malsain. Adèle s'est repliée, s'est enfermée dans sa relation avec cet ancêtre fantomatique.
Dites-moi, Adèle, depuis combien de temps n'avez-vous pas mis le nez dehors ? Dites-moi la vérité. Depuis que tout ça a commencé, vous sortez de moins en moins et vous ne voyez plus personne.
Bah oui. Mais c'est normal, je suis âgée, j'ai du mal à me déplacer.
Adèle, je comprends qu'au début, la présence d'Ismeri était réconfortante pour vous. Elle vous tenait compagnie, hein ? Alors vous avez commencé à vous faire plus discrète dans le village, à moins inviter vos amis. Et Ismeri est devenue votre seule force de survie.
Vous pensez ? Hein ? C'est possible.
Elle doit partir, Adèle, pour trouver la sérénité.
Adèle fait oui de la tête. Elle accepte de se libérer d'Ismery. Mais ça ne va pas être facile, hein. Ça va faire un vide dans sa vie.
Mais pourquoi cette jeune femme n'a-t-elle pas rejoint l'au-delà à sa mort? Pourquoi est-ce qu'elle a continué à hanter ces lieux, Patricia?
Ismery était attendue comme tous ceux qui franchissent ce cap qu'est la mort. Seulement, elle n'était pas prête à partir. Trop enfermée dans sa douleur psychique, dans cette société de convenance de l'époque on l'a cachée. À sa mort, elle est donc restée cachée.
Dans son livre, Patricia écrit:
je restais auprès d'elle toute la journée, la réconfortant à ses multiples demandes. Elle allait libérer Ismery de plus de 100 ans de souffrance.
Patricia donna à Adèle une recette, une solution.
Adèle, vous allez prier tous les jours et demander à Ismery dans vos prières de suivre la lumière.
Et elle la laisse seule avec son fantôme. Et les jours passent, et les mois. Et un jour, Patricia reçoit une lettre d'Adèle. Cher ami, je veux vous raconter la dernière visite d'Ismery. Je l'ai vue le soir où vous êtes parti. Je me suis réveillé au milieu de la nuit. Elle était là, assise au bord de mon lit, dans sa robe bleue. Elle me regardait et pour la première fois, je l'ai vue sourire. Je me suis senti si bien, si légère. J'ai compris qu'elle me remerciait. Alors, je veux vous remercier à mon tour.
Bon, eh bien j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Sachez que cette maison vous est toujours ouverte. Vous revenez quand vous voulez. J'ai tellement de choses à vous raconter.
Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know. The baby, the best. I got my red dress on tonight. Dancing in the dark in the pale moonlight. Done my hair up real big, beauty queen style. High heels off, I'm feeling alive. Oh my God, I feel it in the air. Telephone wires above, all sizzling like a snail. I'm fire, I feel it everywhere. Nothing scares.
Allez, venez. Je vous raccompagne. Ah ! Votre chauffeur est déjà là. De toute façon, il est vraiment temps pour vous de partir, hein, parce que ça pourrait commencer à devenir dangereux s'il y en a quelques-uns qui s'impatientent, et ça serait dommage que ça tombe sur vous. Pour moi, la nuit ne fait que commencer. Mais je vous souhaite un bon retour chez vous. Et j'espère à très bientôt.
Ondelatte, les histoires d'Halloween. Une émission spéciale imaginée, mixée et réalisée par Sébastien Guidis et Julien Tarot. Écriture des histoires, Pierre Anquetin et Quentin Mouchel. Écriture des séquences maison, Christophe Daviau. Ondelatte, les histoires d'Halloween n'auraient pas vu le jour sans l'aide inestimable de toutes les équipes d'Europe 1 qui se sont mobilisées. Un remerciement spécial à Christophe Ondelatte, Xavier Joly, Étienne Guffroy, Nicolas Loupien, Bertrand Rutili, Nadia Milosevic, Alexandre Olmar, Céline Lebras, CCI Versailles, David Perrault. Europe 1 vous souhaite un joyeux Halloween.
C'était tremblant, c'était troublant, c'était vêtu d'un drap tout blanc, ça présentait tous les symptômes, tous les dehors de la vision, les faux airs de l'apparition, en un mot c'était un fantôme. À sa manière d'avancer, à sa façon de balancer, les hanches quelque peu convexes, je compris que j'avais affaire à quelqu'un du genre que je préfère, à un fantôme du beau sexe. Je suis un petit poussé perdu, me dit-elle d'une voix morfondue, un pauvre fantôme en déroute. Plus de traces des feux follets, plus de traces des osselets dont j'avais jalonné ma route. Des poètes sans inspiration auront pris quelle aberration, mes feux follets pour des étoiles. De pauvres chiens de commissaire auront croqué quelle misère, mes osselets bien garnis de moelleux. À l'heure où le coq chantera, j'aurai bonne mine avec mon drap plein de faux plis et de coutures. Et dans ce siècle profane, nous, les gens ne croient plus guère à nous, on va crier à l'imposture. Moi qu'un chat perdu fait pleurer, pensez si j'eus le cœur serré devant l'embarras du fantôme. Venez, dis-je, en prenant sa main, que je vous montre le chemin, que je vous reconduise à home. L'histoire finirait ici, mais la brise, et je l'en remercie, troussa le drap de ma cavalière. Dame, il manquait quelques osselets, mais le reste, loin d'être laid, était d'une grâce singulière. Mon Cupidon qui avait la flèche facile en ce temps, la vie mouche et le feu sur les tempes. Je conviais sournoisement la belle à venir un moment voir mes icônes, mes estampes. Mon cher Luther, vous êtes fou, j'ai 2000 ans de plus que vous. Le temps, madame, que nous importe? Mettant le fantôme sous mon bras, bien enveloppé dans son drap, vers mes pénates, je l'emporte. Eh bien, messieurs, qu'on se le dise, ces belles dames de jadis sont de satanées polissonnes, plus expertes dans le déduit que certaines dames d'aujourd'hui, et je ne veux nommer personne. Au petit jour, on m'a réveillé, on secouait mon oreiller avec une fougue pleine de promesses. Mais foin des délices de capoue, c'était mon père criant debout, vain Dieu, tu vas manquer la messe. caresse, mes foins des délices de capou. C'était mon père criant debout, vain Dieu, tu vas manquer la mer.